Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 8e jour après Pâques, la fête de la miséricorde. Les circonstances exceptionnelles de cette année peuvent faire naître en nous une interrogation, mais finalement, quel sens cela a-t-il de célébrer la miséricorde cette année? De fait, nous subissons un confinement qui s'est prolongé d'un mois jusqu'au mois de mai. Et dans l'évangile, nous lisons que Jésus, lui, brise le confinement volontaire des apôtres qui s'étaient réfugiés au Cénacle par peur de la persécution. Nous appliquons les gestes barrières en nous tenant à distance les uns des autres, en renonçant à nous serrer la main, à même à nous voir, nous rencontrer, nous embrasser. Jésus, lui, se tient au milieu des apôtres et invite Thomas à mettre le doigt dans sa main et la main dans son côté. Alors la question du sens de cette fête se pose à nous. Cela a-t-il du sens de fêter la miséricorde cette année? Comme Thomas, nous sommes invités à nous approcher des plaies de Jésus, à le toucher. Le lieu habituel pour toucher Jésus, pour nous approcher de lui, ce sont les sacrements. Or justement, voilà un mois que vous ne pouvez plus communier. La plupart d'entre vous n'ont pas pu se confesser pour Pâques. Les catéchumènes que nous portons dans la prière n'ont pas pu être baptisés, c'est une vraie épreuve pour eux, et les premières communions ont dû être reportées. Alors célébrer la miséricorde n'est vraiment pas évident. Comment célébrer la miséricorde quand nous avons du mal à voir la providence divine dans tant de situations dramatiques? Je pense tout particulièrement à ce que vivent les prisonniers en prison, les malades psychiatriques qui sont obligés de rester chez eux ou bien qui sont internés dans des hôpitaux psychiatriques où on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Les personnes parmi vous, plusieurs m'ont témoigné de leur souffrance d'être complètement isolés, de ne plus pouvoir sortir et de rencontrer personne. Ça peut être aussi les cités qui sont livrées aux mains des trafiquants, les gens n'arrivent pas à rester chez eux. Certains font l'expérience de l'impossibilité d'accompagner dans les derniers instants les membres de leur famille, des membres proches qui sont sur le point de mourir, qui sont morts et auxquels il n'est plus possible d'assister aux obsèques. Et puis, il y a bien évidemment les difficultés vécues par les couples dans les familles où les divisions qui étaient parfois un peu latentes éclatent au grand jour. On a recours à la violence verbale et parfois physique. Alors, comment vivre la miséricorde en cette époque que nous vivons? Finalement, ce n'est pas seulement la bonté de Dieu qu'il est difficile de voir, mais tout simplement sa miséricorde, parce que nous expérimentons notre péché peut-être de manière plus claire, de manière plus humiliante. Nous avons expérimenté la colère les uns contre les autres, parfois contre nous-mêmes aussi, ou bien contre Dieu. Ça peut être l'expérience de nos replis égoïstes sur nos préoccupations et nos conforts. Le pape lui-même disait qu'il avait ses moments d'égoïsme au cours de ce confinement. Nous avons peut-être expérimenté notre misère à travers nos découragements dans une situation dont on ne voit pas l'issue. Nous avons peut-être aussi misérablement expérimenté nos fuites ou nos recherches de compensation dans la pornographie, dans l'abus d'alcool ou de nourriture. Alors, bien, c'est toute cette misère qui crie vers Dieu, la misère de ce que nous vivons, la misère de ce que nous sommes, et cette misère crie vers le ciel. Le ciel nous entend-il? Il est bien difficile de parler aujourd'hui de miséricorde. Peut-être le doute s'est-il insinué dans notre cœur. Peut-être Dieu a oublié son peuple, bien peut-être s'est-il découragé comme nous serions tentés de l'être. Alors, ce serait oublier que Dieu ne fait pas miséricorde parce que nous le méritons, mais parce que nous en avons besoin. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables ou bons, mais pour que nous le devenions un jour. Lorsque la Bible parle d'espérance, ce n'est pas lorsque tout va bien, mais justement lorsque la foi n'a plus rien d'évident et que le croyant est dans le tourment et les inquiétudes. Alors c'est bien pour notre temps, c'est bien pour aujourd'hui, c'est bien pour 2020, à une époque de grande souffrance où la misère abonde, c'est aujourd'hui que la miséricorde est offerte en abondance. Tout d'abord, nous voyons Jésus qui brise le confinement des apôtres. C'est vrai, il brise le confinement des apôtres et nous, il nous est demandé de le prolonger. Mais justement, cela révèle que pour Jésus, aucune porte n'est close. que ce soit les portes de nos maisons, que ce soit les portes de nos cœurs, rien n'arrête le Seigneur dans son désir de venir à notre rencontre. Peut-être que nous ne pouvons pas sortir, mais lui peut rentrer. Et même si l'accès au sacrement ne nous est plus possible, la grâce de Dieu ne cesse pas de jaillir pour nous en abondance. Dieu nous rejoint là où nous sommes, comme il rejoint les chrétiens de Chine qui sont emprisonnés à cause de leur foi, comme il rejoint les chrétiens d'Arabie Saoudite où il n'y a plus d'église et où l'on risque d'être arrêté lorsqu'on se rend à une messe clandestine. Le Seigneur rejoint les 10 000 catholiques de Corée du Nord où il n'y a pourtant aucun prêtre catholique, et ce depuis des années. Vous savez, j'ai reçu hier un dessin humoristique où Satan se félicitait d'avoir réussi à fermer toutes les églises grâce au Covid-19. Ce à quoi Dieu, amusé, lui rétorquait que lui avait ouvert une église dans chaque maison. Et de fait, combien parmi nous pourraient témoigner de la nouvelle intimité qu'ils vivent avec le Seigneur, malgré l'impossibilité de communier, de recevoir la communion sacramentelle et de venir prier ensemble à l'église? Oui, le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui, à entrer dans une intimité nous-mêmes, nouvelle avec lui, alors même que nous sommes privés de sacrements. Nous célébrons la miséricorde alors que de nombreux prophètes se risquent à donner leur interprétation spirituelle plus ou moins hasardeuse des événements présents. C'est impressionnant de voir le nombre de prophètes de malheur qui se lèvent. En cas d'épidémie, nous en faisons l'expérience. Or, la liturgie de ce jour nous confirme que nous vivons un temps de miséricorde, même si nous avons du mal à discerner cette miséricorde. Alors, pour illustrer cela, je voudrais recourir à la réflexion à une histoire rapportée par le père Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, lors de son homélie du vendredi saint à Saint-Pierre de Rome, en présence du pape François. Certains parmi vous ont peut-être assisté à cet office. L'histoire qu'il rapporte est la suivante. Alors qu'il peignait les fresques de la cathédrale Saint-Paul à Londres, le peintre James Thornhill était si enthousiasmé par son travail que, revenant à un moment donné sur ses pas pour mieux admirer sa fresque, il ne remarqua pas qu'il était sur le point de tomber de l'échafaudage dans le vide. Un de ses assistants, terrifié, comprit que s'il criait, il ne ferait qu'accélérer la catastrophe. Sans y réfléchir à deux fois, il trempa un pinceau dans la couleur et le balança en plein sur la fresque. Le maître, sidéré, bondit en avant. Son travail était compromis, mais lui était sauvé. Le père Cantalamessa commente ainsi. C'est ainsi que parfois Dieu fait avec. C'est ainsi parfois que Dieu fait avec nous. Il bouleverse nos plans et notre tranquillité pour nous sauver de l'abîme que nous ne voyons pas. Alors, c'est quoi cet abîme que nous ne voyons pas? Ce danger imminent dont Dieu nous préserve, que Dieu nous prévient, dont il est en train de nous sauver. Le père Cantalamessa dit que finalement, c'est l'illusion de la toute-puissance. Et de fait, nous expérimentons que le plus petit élément de la nature met en échec nos forces militaires et nos capacités techniques et scientifiques. Alors, il ne s'agit pas d'affirmer que Dieu a envoyé le virus pour nous donner une leçon. C'est une interprétation trop rapide, trop matérielle, trop directe. Il y a beaucoup de gens qui souffrent terriblement, notamment les plus pauvres. Ce serait injuste de le considérer comme ça. Non. Le Seigneur qui a pleuré un jour la mort de Lazare pleure aujourd'hui le fléau qui s'est abattu sur l'humanité. Oui, Dieu souffre comme un père et une mère qui voient ses enfants souffrir. Et un jour, nous découvrirons au ciel, nous aurons honte de toutes les accusations que nous avons portées contre le Seigneur. Le procès de Dieu a déjà eu lieu, c'était il y a 2000 ans, alors ne le continuons pas. Mais en fait, notre regard discerne que Dieu, dans sa providence, fait concourir au bien de ceux qu'il aime, même les catastrophes naturelles, même les tremblements de terre, même les pandémies. Ce n'est pas facile de le discerner, c'est le croyant qui le discerne dans la foi. La théologie nous dit que les catastrophes naturelles ou les pandémies suivent leur cours, mais que Dieu, lui, les fait servir à ses plans. Ce n'est pas Dieu qui suscite le coronavirus, Mais il a donné à la nature une forme de liberté, une liberté d'évoluer selon les lois de développement. Et même Dieu respecte cette liberté de la nature, si on peut s'exprimer ainsi. Dieu n'a pas créé le monde comme une horloge programmée à l'avance dans son moindre mouvement. C'est ce que certains appellent le hasard, mais que le croyant dans la Bible appelle plutôt la sagesse de Dieu. Rien n'échappe à la main de Dieu. Saint Augustin écrit: Dieu étant suprêmement bon, ne laisserait aucun mal exister dans ses œuvres s'il n'était pas assez puissant et bon pour tirer le bien du mal lui-même. Alors, je voudrais terminer en citant un témoignage d'une jeune femme de la paroisse. Ça m'a profondément impressionné et elle m'a dit combien elle était éprouvée par l'épreuve de la maladie, une autre maladie que le coronavirus, et qu'elle a reçu un signe de Dieu et ça l'a bouleversée. Et elle m'a écrit la chose suivante: Pour moi, le message de Dieu était clair. On est sur le chemin que Dieu veut pour nous, même si ce chemin est plein de souffrances et il est avec moi dans ma souffrance. Ce signe me montre que Dieu est avec moi dans l'épreuve. Dieu se révèle ainsi à moi, à nous, au cœur de cette souffrance. C'est fou, et cela est apaisant de savoir que l'on est sur le chemin que Dieu veut pour nous. Faire l'expérience que Dieu est avec nous dans cette épreuve m'aide beaucoup dans ma façon de vivre cette espérance d'enfant dans une situation qui, disons-le nous bien, pourrit quand même bien ma vie. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur apparaît aux disciples et leur dit par trois fois: La paix soit avec vous. Eh bien, chers frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, comme il y a 2000 ans, entre dans nos maisons fermées, que ce soit par Internet, par la télévision, par la prière du chapelet, la lecture de la Bible ou bien la liturgie vécue en famille. Et comme il y a 2000 ans, le Seigneur nous redit: La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix que Dieu donne, c'est pas la paix du monde. La paix du monde, c'est la fin de l'épreuve, la résolution des problèmes. Mais le Seigneur nous a promis sa paix. Et sa paix, c'est sa présence, sa bonté au cœur de l'épreuve qui nous atteint tous. Que nous puissions, au cours de ce dimanche, être renouvelés dans l'accueil de la miséricorde, afin d'en être témoin autour de nous. Amen.